Bonne fête, Denis Astagnaud, et bonjour à tous. Aujourd'hui, l'aventure de la langue française. Nous voulons désormais que tout arrêt, contrat, sentence, testament et autres actes de justice soient prononcés en langage maternel français. François 1er, 1539. D'histoire. En août 1539, par l'ordonnance de Villers-Cotterêts, François Ier faisait de la langue française la langue officielle de son royaume. Désormais, l'administration cesserait d'employer le latin et le français prendrait le dessus sur tous les dialectes et patois de France. C'était le début de l'aventure d'une langue qui n'a jamais cessé depuis de se métamorphoser et de se répandre dans le monde entier au point qu'au XVIIIe et XIXe siècle, toute l'Europe parlait le français. Mais l'histoire de la langue française se confronte aussi avec celle d'une nation qui n'existerait pas sans cette volonté permanente qu'ont eu tous les régimes politiques d'unifier les Français autour de leur langue et aux dépens d'une autre qui autrefois, à l'époque de Charlemagne, était l'équivalent de l'anglais aujourd'hui.
Cosa ergo manitudinis imperii Romani, nec fortuita est nec fatalis, secundum eorum sententiam, si ue
officina... Dressez Saint-Augustin, préparez un capitulaire pour les abbés et pour les évêques. Mais pas en latin classique. En latin de tous les jours que tout le monde comprenne. Demandez qu'ils ouvrent des écoles partout. Désormais, l'enseignement se fera en langue romane ou tudesque selon les régions. Mais surtout pas de latin d'église. Sinon, les enfants doués des campagnes n'auront pas accès aux écoles.
Paul-Marie Couteau, bonjour.
Bonjour.
On oublie souvent que la langue que nous parlons n'est pas aussi vieille qu'on le croit et que on ne la parlait pas encore il y a 1200 ans. Au début de votre dernier livre, Être et parler français, vous rappelez que dans l'Empire de Charlemagne, eh bien, on parlait le tudesque, qui est, je crois, l'ancien allemand, l'ancienne forme de l'allemand, ou le roman, qui est la toute première forme qu'a pu prendre le français.
Oui, ce qui est remarquable, c'est qu'on ne parlait plus du tout gaulois, en tous les cas. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Empire romain, au fond, avait réussi à éradiquer complètement cette langue, qui en plus avait une fragilité particulière, elle n'était pas écrite. Je crois que c'est le point à retenir avant tout quand on parle de langue, c'est qu'il y a des langues qui meurent. Il y a à peu près la moitié des langues parlées en 1900 qui sont mortes au cours du XXe siècle. Et je pense qu'au XXIe siècle, un très petit nombre de langues arriveront à survivre à l'éradication technologique, ne serait-ce qu'Internet. Vous savez qu'il y a que 8 langues qui ont une présence tant soit peu significative sur Internet.
Il y en a une qui a duré longtemps.
Dont le français, je m'empresse de le dire. Mais toutes les autres sont menacées de mort aussi, comme le gaulois l'a été. Les langues meurent, les langues peuvent revivre, les langues peuvent mourir.
Alors le gaulois l'a été à cause du latin, qui était la langue répandue, pas forcément parlé par tout le monde. Il y avait d'une part des patois, il y avait des dialectes pour chaque région, mais il y en avait une qui permettait aux Européens de l'époque, aux gens de l'Empire de Charlemagne, de se comprendre d'une région à l'autre. C'était le latin qui dominait tout. C'était un peu l'anglais de l'époque.
Oui, par le fait de la suprématie ecclésiastique. Et vous lisiez tout à l'heure une des phrases de l'édit de Villers-Cotterêts, signée par François Ier. Le fait est que les langues suivent les armées d'une certaine façon. Si nous parlons aujourd'hui souvent américain, pas anglais, c'est faux, on dit anglais, c'est fini, c'est l'anglo-américain ou de l'américain, c'est à cause de la domination, et d'abord militaire au fond, de l'américain. De même que si on a parlé anglais pendant très longtemps, c'est à cause de la domination politique sur les esprits, et finalement, par le biais de l'Église, diffusée par tout l'appareil ecclésiastique, au fond, c'était un fait de force.
On pourrait dire aussi de cela du français.
Et évidemment,
si on parle évidemment, le français dans les colonies. Mais nous reviendrons, Paul Baricouteau. Je voudrais qu'on revienne un peu en arrière, parce que les origines du français, on les oublie souvent. D'abord, vous évoquez tout de suite un serment important, une date importante, 842, le serment de Strasbourg. Oui. Parce que on utilisait le latin dans tous les textes officiels, et voilà qu'en 842, on utilise le roman, c'est-à-dire l'ancien français. Qu'est-ce qui s'est passé en 842 ?
C'est très important, la date de 842. Certes, le français n'est pas si ancien que cela, encore que il naît en 842. Le plus ancien texte que nous ayons en langue, que l'on puisse dire française, c'est un serment, c'est un échange de serments, très intéressant d'ailleurs, parce que ça dit les origines politiques, tout entière politiques de notre langue, même diplomatique en l'occurrence, entre les deux fils puinés du fils de Charlemagne, que nous avons entendu tout à l'heure, les deux fils puinés de Louis le Pieux, qui sont furieux parce que le frère aîné, Lothaire, veut récupérer l'ensemble de l'Empire à son seul profit. Or, ils entendent garder l'un, la Francia occidentalis, la future France, si vous voulez, l'autre, la future Allemagne. Et chacun se prête serment d'alliance contre le frère, au fond, contre l'Empire. Déjà, le français est une langue anti-impériale. Dès le jour même de sa naissance, elle est tout entière politique, militaire et anti-impériale, de sa même façon. Elle est même européenne. Elle est même fondée sur l'alliance franco-allemande. Et le plus émouvant, d'ailleurs, c'est que c'est Louis le Germanique qui prête serment en langue qui est dite
romane,
oui. Qui est au fond la toute amorce du français, alors que Charles lui répond en langue tudesque, ce qui deviendra l'allemand. Au fond, il y a une espèce de reconnaissance de l'altérité, de la différence de l'autre, par la langue. Et c'est, on peut dire, cette institution très politique qui fait le français.
Oui, le français, enfin le roman, hein, premier texte écrit en roman, je crois, mais le latin reste encore la langue de l'administration, et cela pendant 700 ans, jusqu'à une autre date capitale, on l'a cité tout à l'heure, 1539, l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Là, c'est un Valois, c'est François Ier, d'ailleurs, je crois que c'est le premier roi de France qui ait vraiment parlé le français, qui décide que cette langue-là, le français, qui s'appelle déjà le français, sera la langue du royaume, en tout cas
Les rois tenaient beaucoup au français, et à mesure que les rois faisaient leur précaré, le français suivait. Encore une fois, ça dit une fois encore l'ensemble de l'aventure du français qui est entièrement politique. Quand on dit une loi n'a pas à se mêler de la langue, c'est farfelu, parce que dès le début, la langue est intégrée dans une loi. Vous savez, il y a des langues qui ont ressurgi, comme par exemple le hongrois au XIXe siècle ou au XXe siècle l'hébreu, tout simplement parce que une volonté politique était derrière. Et donc une langue est très malléable par la politique et très accessible à la loi. Et François Ier, ainsi que l'ensemble des rois qui précédaient, ont voulu s'opposer au latin, parce que le latin était une langue d'une puissance étrangère, on peut dire, l'Église, avec laquelle les rois n'avaient pas toujours de bons rapports, et qu'il fallait parler la langue du peuple. Et c'est une façon de faire France, comme on a dit au Moyen-Âge, que d'imposer le français contre la langue des élites et des clercs qui s'entendaient entre eux, et le peuple n'y comprenait plus rien. C'est un refus du bilinguisme, d'une certaine façon, parce que le bilinguisme est une atteinte à la démocratie.
Et voilà le français, donc, dans les textes officiels du royaume de François Ier, un français qui n'a plus grand-chose à voir avec la langue que nous parlons aujourd'hui. Écoutez ce poème de François Ier, mis en musique par l'ensemble Gilles Binchois, « Quand je connais en ma pensée ». Que n'avouer nul bien à te vouer, trop je pensais, trop français, ne craignant à l'amour prévoir, alors tu me fais à savoir la flamme où tout a commencé, dont notre amour par l'heure dévouée a bien été récompensé. Ça, c'était du français de l'époque de François Ier, de l'époque aussi de ces deux grands défenseurs du français qui étaient Ronsard, qui étaient Dubellay, Dubellay auteur justement d'un livre sur la défense de la langue française dès cette époque.
Contre l'italien d'ailleurs,
oui.
Car la langue dominante c'était l'anglais et l'italien. Les écrivains français, la Pléiade justement, ont créé des mots, grande leçon pour nous aujourd'hui, non seulement de toute pièce, mais tout simplement par traduction. Il y a un autre personnage qui a joué un rôle énorme, c'est Jacques Amyot, un traducteur. En traduisant, si vous voulez, du latin ou de l'italien vers le français, il a inventé des mots. C'est peut-être ce que nous ne savons pas faire assez aujourd'hui, parce que nous n'avons pas assez confiance en nous-mêmes.
Inventer et codifier aussi, parce que le français, oui, alors, de François Ier, il s'est amélioré, il s'est perfectionné, et il y a eu le rôle essentiel, un siècle après lui, de l'Académie française, Paul-Marie Couteau.
Essentiel parce que ça, le français a beaucoup moins évolué à partir du XVIIe siècle. Nous parlons une langue qui est très proche de celle du XVIIe siècle, finalement, par opposition, par exemple, à l'anglais. Et c'est très intéressant parce que l'anglais est une langue qui, au fond, a été imposée à une cour d'Angleterre qui a parlé français pendant très très longtemps par le peuple. C'est une langue qui est venue du peuple. À la différence du français, c'est le français est venu d'en haut. Alors, risques et périls de cette très grande marque politique et institutionnelle, même royale, du français. Le grand risque, c'est que, au fond, on le voit aujourd'hui, on le récuse un peu parce que il porte un peu trop la marque de siècles que la haine de nous-mêmes ou le mépris de nous-mêmes qui sévit aujourd'hui, n'est-ce pas, torpille allègrement, d'où le recours exagéré au franglais, à l'américain, qu'on utilise à tort et à travers. Mais il y a aussi un grand avantage à la codification, c'est que la langue ne bougeant pas, elle se transmet et nous avons encore accès aux textes du XVIIe siècle comme les contemporains. À la différence de l'anglais, je vous signale que l'anglais et l'américain plus encore, et c'est une énorme faiblesse qui, à mon avis, me fait dire que l'américain finira très mal le 21e siècle. La langue anglaise ne cesse pas d'évoluer. Des textes écrits en Angleterre en 1910, aujourd'hui, des romans, doivent être traduits en anglais contemporain. Parce que la langue est beaucoup plus malléable, elle n'a pas eu l'Académie française, justement. Et le résultat, c'est qu'elle subit une sorte de sissiparité, d'explosion, qui fait qu'il y a plusieurs Américains, et que finalement, cette langue est encore plus en danger que le français.
En tout cas, à l'époque de l'Académie française, encore, elle s'est heurtée, la langue française s'est heurtée à la résistance du latin, qui était encore défendu par la Sorbonne, par l'Église, par le Parlement, mais aussi à la résistance des patois que la monarchie a essayé de faire disparaître avec, par exemple, cette célèbre école pour jeunes filles de la noblesse créée près de Versailles, à Saint-Cyr, par Madame de Maintenon.
Alors, mademoiselle, quel est votre nom ?
Voulez-vous bien me dire votre nom ?
Marthe d'Absolu de Gabastou. Quand de notre réseau des montagnes et des yens d'absolu des gabastous, métis d'un an d'absolu, t'es métis d'un an tout d'absolu.
Mon père nous sait que seul genre est comme
des grands. Arrête
pas. Qu'est-ce qu'il y a pas et qu'il y a une bataille. Et il nous dit.
Mais si à ce moment-là, même pas l'aïkou du bain.
Mais pas il fou.
Ah, mais t'en vas.
Silence, mademoiselle. Bientôt, vous parlerez toute la même langue. Il n'y aura plus de différence entre vous. À présent, vous êtes toutes de la même maison, de la même province et du même royaume.
Cela fait un mois que je suis ici. J'apprends le français que je ne savais pas. Et j'oublie le patois que je savais. Répétez.
Ah.
Ah. Oh, oh,
oh.
Sans la langue française, vous le dites, Paul-Marie Couteau, dans votre livre, bien, il n'y aurait pas de nation française, tout simplement. Pas plus, d'ailleurs, que toutes les nations du monde se font autour du Nord.
Plus la France qu'aucune autre nation, peut-être, parce que la France n'est pas du tout une évidence de nature, comme peut-être la Grande-Bretagne, elle n'est pas une race. Elle ne se conçoit pas autrement que par une construction politique, culturelle, dont la langue est le ciment, en réalité.
C'est la volonté de vivre ensemble.
Fernand Braudel disait, ma patrie, c'est ma langue. ou d'autres écrivains ont dit le français, c'est la langue, la France est la langue française. Au fond, c'est tout à fait indissociable. C'est d'ailleurs le drame d'aujourd'hui, c'est que il me semble bien que depuis maintenant, depuis Saint-Cyr, depuis les rois, mais aussi depuis la Révolution, révolution d'ailleurs permise par le fait qu'on a beaucoup unifié les patois, il s'est permis une communication dans l'ensemble des régions et qui a produit un mouvement populaire de certaine façon. Cette unité nationale, elle a été faite au fil des siècles et elle aboutit en effet à une construction d'une nation entièrement, alors ça la rend fragile, ça la rend sublime d'une certaine façon, mais ça la rend très fragile, entièrement faite à partir de sa langue. Et aujourd'hui où le tissu social se défait, je crois qu'on se rend compte qu'il ne nous reste peut-être presque plus rien que la langue.
Mais
la langue française.
Ce qu'il y a de paradoxal, c'est qu'au moment où à Saint-Cyr, Madame de Maintenon apprenait à toutes les petites françaises, en tout cas celles de la noblesse, hein, il n'y avait pas encore l'école obligatoire pour tous, mais à parler le français, donc c'est, la langue, les patois demeuraient exister encore, eh bien au même moment, la France, le français, la langue française devient une langue internationale. On parlait le français dans toutes les cours d'Europe. Catherine II, Frédéric le Grand parlaient le français.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le Rome, l'Église, s'est ralliée au français. Ce qui fait que l'ensemble des textes diplomatiques, par exemple, même quand la France n'était pas concernée, étaient rédigés en langue française.
Le traité de Rastatt, hein, entre la France, l'Autriche et la Prusse.
Oui, Westphalie, enfin l'ensemble des grands traités, jusqu'à, y compris le traité de Versailles en 1919.
Alors, pourquoi ce succès, d'ailleurs, c'est quand même assez extraordinaire, pourquoi ce succès de la langue française par rapport aux autres. Je ne sais pas si Louis XIV parlait l'allemand, mais en revanche, ses homologues européens parlaient le français.
Parce que la France est une nation tout entière littéraire, on peut dire, et cette conception de la nation a été très séduisante. Et je crois qu'elle l'est encore aujourd'hui. Le français, finalement, se porte très mal en France, pas bien en Europe, mais très bien dans le monde, tout simplement parce qu'il porte encore cette image d'une langue littéraire, d'un pays, au fond, disons le mot, à l'art de vivre un peu aristocratique, plus recherché, plus subtil, plus ouvert aux idées, plus ouvert aux grands principes de l'humanité. On peut dire d'une certaine façon qu'il y a trois conceptions du monde aujourd'hui, le tout marché à l'anglo-saxonne, le tout sacré musulman, et il reste encore quelque chose que la langue porte, qu'elle portait déjà, c'est-à-dire une sorte d'humanisme, une sorte de construction politique, une sorte de volonté de faire vivre la diversité et de rendre compte de la diversité du monde. Et ça, je crois que ça a été un attrait très puissant depuis des siècles pour le français.
Alors d'où le fait que c'était en français que se signaient tous les traités, y compris ceux dans lesquels la France n'était pas du tout partie prenante, jusqu'à ce qu'en, vous l'avez dit d'ailleurs, Paul-Marie Couteau, jusqu'en 1919, lorsque le traité de Versailles voit apparaître une autre langue diplomatique aux côtés du français, c'est l'anglais. On dit d'ailleurs que c'est Clémenceau, le négociateur français, qui pour épater la galerie, c'est le cas de dire des glaces, avait voulu montrer qu'il savait parler l'anglais et qu'il avait ainsi, pour faire plaisir à Wilson, le président américain, à Lloyd George, le premier ministre anglais, accepté que le traité soit écrit en français et en anglais.
C'est un peu anecdotique, mais c'est ce que nous disons en commençant cette émission, la langue suit toujours la puissance. Au fond, la France n'a pas gagné 14-18, en tout cas, elle n'a pas gagné seule. À partir de 1917, le renfort américain était décisif. De même qu'il fut décisif quelques années plus tard, hélas, après le drame de l'effondrement de 39 et 40, la France a été sauvée par les Alliés, d'une certaine façon, enfin, pas simplement, mais aussi par les Alliés, et les Alliés parlaient, que ce soit les Anglais ou les Américains, ils parlaient anglo-américains, et les Russes aussi, mais c'est toujours la bonne vieille règle selon laquelle la langue suit la force, et si on parle américain aujourd'hui, c'est au fond la conséquence d'un fait des armes, hein, d'une certaine façon, on peut dire que celui qui est soumis parle toujours la langue du maître. L'esclave parle toujours la langue du maître. Raison de plus, justement, pour faire attention à la langue qu'on utilise.
En tout cas, le français est quand même resté, même si on le parle guère, officiellement la langue de la SDN, puis de l'ONU qui lui a succédé, mais au dépens quand même d'un anglais qui progresse, au point d'ailleurs de faire perdre son français à Jacques Chirac en 1994, quand il était encore maire de Paris.
Pour employer un mot, j'ose à peine le dire, mais je ne sais pas comment on le dit en français, mais Jacques Toubon me corrigera. Je vais profiter du fait qu'il n'écoute pas. C'est le marketing, dont j'ai rien dit là, et l'innovation.
La promotion
du marché. Enfin, bon.
La promotion.
La promotion.
Vous voyez quand
vous pensez que sur un simple fait, le design qui... Opa.
Si, c'est officiel, c'est admis.
Ah bon.
Oui. Enfin, ça, on peut dire...
Allez-y.
On peut dire quoi?
Non, la stylique.
La stylique.
Allez. Bon. Allez-y. Mais de toute façon, c'est, le design, ça existe.
Bon, alors la stylique. Quand vous pensez qu'il y a dans la seule entreprise Sony, japonaise, autant de, comment dit-on, stylique men, oh non, pardon.
Stylicien.
De stylicien. Autant de styliciens que dans toutes les entreprises françaises réunies.
C'était Jacques Chirac en 1994. Comment expliquer cette invasion, même s'il le fait avec humour, des mots anglais dans notre vocabulaire? Et est-ce qu'il faut s'en offusquer, Paul-Marie Couteau?
Écoutez,
après tout,
les
Anglais ont, et les Américains ont emprunté beaucoup de mots français.
À partir du moment, oui, mais ils les ont digérés. Ils les ont digérés et notre grand souci, c'était celui de Georges Pompidou. Voilà pourquoi je m'étonne que Jacques Chirac daube sur la création lexicale des commissions de terminologie. Georges Pompidou a voulu que l'on intègre les mots français, les mots étrangers, notamment anglais et américains, en français, comme par exemple paquebot, qui était packet boat, qui est devenu paquebot. Le français a aussi beaucoup de mots anglo-saxons. Simplement, il faut les intégrer. Et quand on a transformé, alors je trouve triste que le président de la République ait ignoré ce mot trouvé par une commission de terminologie, encore une fois instituée en 72 sous la volonté du président Pompidou. Il a utilisé marketing, le mot mercatique est bien meilleur. Il est bien meilleur, pas simplement parce qu'il est français et qu'on sait si on doit lui mettre un S ou pas. Les marketing, comment vous faites-vous? Mettez-vous un S ou pas? Enfin, il faut l'intégrer dans la langue, il ne s'agit pas du tout de rejeter les apports extérieurs,
il faut
digérer. Mais mercatique, ça dit tout à fait autre chose. Marketing, c'est la volonté d'imposer à un marché un produit tout fait, alors que mercatique, la définition de la mercatique est un petit peu différente et fait référence à un tout autre, une autre conception
du commerce.
Oui, mais
on va pas tous les
prendre,
parce que c'est cette commission de...
Parce que, justement, c'est bien la question, et le président de la République a tort de dauber sur ce travail-là, c'est qu'en intégrant des mots, en changeant des mots, on change le système. Je répète, mercatique, c'est l'adaptation de l'offre à la demande, c'est-à-dire au marché.
Oui, mais il y en a beaucoup qui ont réussi des néologismes. Je pense évidemment à computer devenu ordinateur, software, on dit logiciel, plus personne ne dit software. Il y a Walkman qui est devenu baladeur, podcast, balado diffuseur ou de balado diffusion. Alors dans l'audiovisuel, il y a eu plus de difficultés. Vous citiez marketing, on pourrait dire aussi, par exemple, ça c'est pas l'audiovisuel, mais dans l'audiovisuel, jingle qu'on utilise, pour lequel on doit utiliser en principe sonal. Mais comment expliquer justement ce manque de réussite au fond de ces néologismes dans bien des cas, Paul-Marie Couteau?
Ça c'est le plus grave. Pendant des siècles et des siècles, nous avons intégré. Et nous le faisons plus, je crois, parce que nous n'avons plus confiance en nous-mêmes. Mon livre, Être et parler français...
Ben vous citez, vous citez Roland Barthes, une très belle phrase, il n'y a pas de crise de la langue, mais une crise de l'amour de la langue.
Oui, et je dirais, il y a une crise de l'amour de la France. Mmh. C'est surtout ça. Mon livre traite de l'être français avant de parler de la langue française. Mais je crois que la langue fait la substance, l'essence même de la France, comme nous le disions, et du fait d'être français. Et si nous refusons en nous-mêmes profondément, intimement, si chacun pour lui-même refuse d'être français, eh bien, il sera mal à l'aise vis-à-vis de sa langue. Il se jettera dans le premier sabir venu. Et si on a intégré pendant longtemps, c'est parce qu'on a longtemps été fier d'être français. Ce qui est, je ne sais pas si on peut le dire au service public, et ce qui est, enfin, sur une radio de service public, ce qui est presque interdit maintenant d'être fier.
Non, écoutez, pas ici.
Aujourd'hui, on est culpabilisé de tous côtés. On est tellement culpabilisé que finalement, on nie notre être même qui se traduit par la langue.
En tout cas, ce qui est curieux, c'est que le français est souvent mieux défendu à l'étranger dans le cadre de la francophonie qu'en France. C'est le cas, par exemple, de cet académicien devenu président de la République du Sénégal et qui aurait aujourd'hui même, très précisément 100 ans, Léopold Sédar Senghor, qui en 1966 expliquait que la francophonie n'est pas seulement la défense d'une langue.
Pour moi, la francophonie, c'est beaucoup plus que ça. C'est une certaine civilisation, une certaine manière de poser les problèmes et d'en chercher les solutions. Et pour moi, c'est ça, c'est beaucoup plus important. Je m'empresse de vous dire que la francophonie ne s'oppose pas à la négritude ou à l'arabisme. Nous venons d'organiser le premier festival mondial des arts nègres. Je pense justement que parce que nous sommes enracinés dans la négritude et très profondément, nous avons besoin de la langue et de la civilisation française comme apport complémentaire, comme pollen. Comme le disait le général de Gaulle il y a 20 ans, l'avenir est au métissage et d'abord au métissage culturel.
Belle phrase de Saint-Gore, la francophonie c'est aussi une civilisation, et le français c'est une civilisation.
Et oui, le français c'est un art de vivre, une manière d'être, une manière de sentir, c'est, je le disais tout à l'heure, un rapport au monde, une volonté de participer au monde et à sa diversité. C'est ce qui fait d'ailleurs le succès de la francophonie, et c'est ce qui fait la situation très, très fragile dans laquelle nous sommes. Si nous ne croyons plus, je répète ce que je disais à l'instant, mais je crois que c'est vraiment essentiel, si nous ne croyons plus porter des valeurs qui sont des valeurs proprement françaises dont nous avons hérité, qui ont des siècles et des siècles de patine, mais de patine par les mots justement, eh bien nous laisserons tomber notre langue.
Mais vous parlez du succès de la francophonie. Bon, il faut rappeler quand même qu'aujourd'hui le français n'est parlé comme langue, comme première langue, ou comme ou occasionnellement que par 180 millions de personnes sur Terre. C'est-à-dire loin derrière.
C'est un chiffre très contesté. Hein.
Oui, mais enfin bon, vous savez bien que
ça, l'anglais... Il y a 250 000 professeurs de français dans le monde. Alors ils apprennent quand même le français à quelques personnes.
L'anglais, l'espagnol, le portugais, ça aussi c'est grâce à leurs empires coloniaux, je pense au portugais avec le Brésil, sont plus parlés dans le monde que le français.
Non, ça c'est tout à fait faux.
Bah, écoutez, les moi j'ai vu ça, parlé, c'est 11e langue.
Mais je sais, on le dit beaucoup, et certains journaux du soir ou du crépuscule veulent absolument, mais c'est peut-être aussi un malaise vis-à-vis de soi-même, ça, veulent absolument que le français s'effiloche. Ça n'est
mais
pas
vous
vrai.
Savez bien qu'il recule.
Il est en progression.
Il est en progression. Il n'y a plus que les vieux qui ont connu la présence française pour parler
voilà,
français.
Dans ces bastions traditionnelles, et notamment là où il a été le fait de la colonisation, il recule, ça c'est un fait. Mais il progresse énormément en Amérique latine, on n'a jamais colonisé personne, parce que c'est un signe de différence et même d'opposition, justement de civilisation, comme disait Saint-Gore tout à l'heure, vis-à-vis de la civilisation unidimensionnelle, marchande, à l'américaine, si vous voulez. De même, il progresse en Égypte, de même le dernier sommet s'est tenu en Roumanie, et beaucoup de gens parlent français et veulent parler français parce que c'est un signe de dissidence et dirais-je un signe de résistance à ce qu'on appelle bêtement la mondialisation qui est au fond l'américanisation du monde. Et si nous perdons en nous-mêmes ce signe-là, en effet nous mettons notre langue en danger. Mais c'est le cœur même, c'est-à-dire c'est la France, c'est la situation du français en France qui est le danger actuellement, peut-être parce que nous avons insuffisamment, comme disait Barthes, l'amour de nous-mêmes.
Est-ce que ça vaut, je vais faire l'avocat du diable, parce que je pense pas à un mot de ce que je vais vous dire, Paul-Marie Couteau, est-ce que ça vaut vraiment la peine de défendre la langue française?
Ah, bah, la question est la suivante. Est-ce que ça vaut la peine de défendre la France? Moi, je réponds oui, mais je me demande si une majorité de nos compatriotes, dans leur fort intérieur, ont répondu oui. S'ils répondent oui, ils doivent s'attacher à bien parler français. Car je crois que le critère de l'être français, c'est pas simplement la langue française, le fait de parler français, mais de le bien parler. Et dans ces conditions, je crois que l'on sera d'abord bien avec nous-mêmes et fidèle à nos héritages et donc tourné vers l'avenir.
Merci Paul-Marie Couteau. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Être et parler français » publié aux éditions Perrin. Je signale également que vous dirigez la revue Indépendance. À lire aussi « Histoire de la langue française » de Jacques Chauran aux Presses universitaires de France dans les collections Que sais-je. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm « Au temps de Charlemagne » de Jean-François Delassus, disponible en DVD chez Arte Vidéo, ainsi que du film « Saint-Cyr » de Patricia Mazui en DVD aux éditions Universal. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Clotilde Thomas et Christophe Papon, documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.